Deutsche Welle. Droits et libertés.
Pour la dignité paysanne, voilà le titre d'un ouvrage qui vient d'être publié par Deo Gracias Nyonkuru aux éditions du GRIP. Il s'agit d'un recueil de témoignages, mais aussi une source de réflexion sur l'agriculture et la paysannerie en Afrique. Cette semaine, nous nous entretenons avec Deo Gracias Nyonkuru, que nous retrouverons également la semaine prochaine pour le second volet de notre entretien. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Deo Gracias Nyonkuru, bonjour, vous êtes en duplex de nos studios à Bruxelles.
Bonjour.
Donc vous êtes burundais, originaire vous-même d'une famille paysanne et vous avez une formation d'ingénieur agronome. Votre parcours est riche, alors je vais essayer de le résumer. En gros, vous êtes engagé durant plus de 30 ans en faveur des paysans dans ce qui était encore le Congo Zaïre à l'époque, mais aussi au Cameroun, avant de rentrer en 2004 au Burundi, votre pays natal, où vous avez fondé l'ADISCO, une association qui est destinée à promouvoir l'autonomie des paysans, ce qui vous a valu d'obtenir le prix de la Fondation Roi Baudouin pour le développement en Afrique en 2014-2015. Et maintenant, vous travaillez avec divers organismes de développement, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Vous venez de publier un ouvrage pour la dignité paysanne. Vous avez choisi de donner à lire des témoignages de paysans et donc de replacer l'humain au cœur de la réflexion. Alors, en quoi est-ce que c'est novateur ? Parce qu'après tout, il existe de nombreux rapports, une multitude d'études sur la paysannerie en Afrique.
Oui, oui, tout à fait. Le livre est novateur à plusieurs points de vue. Le premier, justement, c'est cette tentative de replacer l'humain au centre du développement. La quasi-totalité des agences de développement considère que développer une population consiste à lui apporter de l'argent et de la technologie et que ainsi automatiquement il va pouvoir se développer. Il s'est avéré malheureusement que ce n'est pas cela et que pour des populations qui sont anéanties, des populations qui ont perdu tout sens d'ambition, la première chose qu'il est important de faire, c'est de leur redonner du sens, c'est de les aider à se donner un sens dans la vie. C'est pouvoir leur restituer un minimum de confiance en soi avant qu'ils ne puissent vraiment se mettre sur la route du développement.
Oui, puis vous parlez de bonheur, d'estime de soi à reconquérir et d'une nécessaire libération des paysannes et des paysans. Alors, pourquoi est-ce que cette dignité que vous avez choisi de faire figurer dans votre titre est actuellement en danger ?
Oui, elle est véritablement en danger parce qu'aujourd'hui, on ne s'occupe plus des personnes. On a le sentiment que l'argent, la technologie suffisent. On définit des politiques de développement pour lui. On lui impose des méthodologies. On fait des choix pour ces personnes comme si elles n'existaient pas, comme s'il y avait des chemins déjà tracés, en particulier par les institutions de Bretton Woods qui croient avoir les solutions à tous les problèmes de la pauvreté. Et donc, lui n'étant pas consulté, un exemple très concret, c'est toute la résistance farouche des populations aux monocultures. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que le paysan, n'ayant pas la capacité d'émettre son point de vue, il choisit de faire de la résistance passive. Et donc, on a une contradiction entre, d'un côté, les montants d'argent apportés par l'aide et les résultats qu'on atteint.
Quand vous parlez de pauvreté, vous parlez de quoi ? Puisque vous dites que ça n'est pas simplement une question de manque d'argent.
Effectivement, il y a la pauvreté monétaire qui est un problème en soi. Les gens n'ont pas les moyens de se faire soigner. Mais il y a aussi la pauvreté que je pourrais appeler matérielle. Les paysans vivent dans des maisons qui sont très, très peu décentes. Les paysans n'ont pas les ressources pour s'habiller correctement. Les paysans ne savent plus manger de manière équilibrée. Il suffit de voir, et ça c'est curieux, que les taux de malnutrition les plus importants aujourd'hui se situent en milieu rural. Donc, au-delà de la pauvreté monétaire, se posent de véritables questions de pauvreté des conditions de vie. À ajouter à cela, il y a aussi des questions importantes, je pourrais dire, de pauvreté politique presque.
Oui, parce que vous dites notamment que la population rurale, donc au-delà de la paysannerie, constitue encore la majorité en Afrique. Et pourtant, c'est toute une frange de la population, de l'électorat, qui est quasiment pas pris en compte, même par les décideurs politiques nationaux.
Oui, tout à fait. Les décideurs politiques viennent à chaque fin de mandat solliciter leur voix avec des promesses démagogiques d'un côté, ou alors en offrant quelques bières, un peu de savon. Mais ils ne s'interrogent pas du tout sur les véritables préoccupations de ces populations. La population urbaine, par contre, elle est plus exigeante. Elle est capable de paralyser les pays par des grèves. Et ce sont les intérêts de la population urbaine qui sont pris en compte. Ainsi donc, pour calmer leurs protestations, on n'hésite pas d'importer des produits bas de gamme qui viennent casser les agricultures africaines parce que la paysannerie n'est pas politiquement organisée pour revendiquer ses droits.
Ce que vous pointez aussi, c'est que la nature des problèmes que rencontrent les agriculteurs, les paysans en Afrique, n'est pas seulement due au retard technique, comme on l'a affirmé pendant des décennies, ni même causé par leur faible productivité.
Oui, tout à fait. Il y a d'abord cette incapacité des paysans à faire des propositions concrètes, ou enfin au moins à les faire parvenir aux décideurs politiques d'un côté. Et d'autre part, et ça me paraît encore plus important, c'est que les paysans, au cours de millénaires, ont développé une réelle expertise. Ils ont des connaissances plus que n'importe qui de la manière dont il faut produire la nourriture. Ils connaissent exactement ce qu'ils mangent. Et on leur fait des propositions qui ne correspondent pas du tout ni à ce qu'elles mangent, ni à leur savoir millénaire. Donc, en d'autres termes, ils sont exploités par des politiques contradictoires de l'aide. On leur propose des solutions toutes faites, mais aussi on les met sur des modes de production productivistes pour gagner de l'argent. Alors que la priorité, c'est d'abord manger. La priorité, c'est d'entrer dans des modes de production qui leur permettent de se valoriser sur le plan social, qui leur permettent de rentrer dans des réseaux de solidarité qui peuvent les soutenir en cas de difficulté. Et donc, réduire finalement la production de la nourriture à une recherche de revenus, c'est une erreur extrêmement importante.
Parce que ça néglige le lien social qui permet une vie et une vie décente et attrayante aussi, peut-être pour les jeunes générations, dans les campagnes.
Oui, il faut qu'on se rende compte que dans la situation actuelle, en particulier de changement climatique, la production agricole reste relativement aléatoire. Et donc, pour pouvoir survivre dans des contextes incertains comme ceux-là, il est important non seulement de diversifier les productions agricoles, non seulement de travailler pour l'argent, mais surtout de rentrer dans des sphères de solidarité qui vous permettront de survivre en cas de difficulté.
Vous citez la tontine comme un des modèles qui peuvent aider. Vous incitez les États aussi à augmenter les subventions en matière agricole pour essayer de compenser les aléas des mauvaises récoltes dues au changement climatique, comme vous le disiez, mais aussi aux conflits. Vous êtes dans une zone, le Burundi, la RDC, où les cultivateurs sont aussi confrontés au problème des conflits armés.
Oui, exactement. Des situations extrêmement difficiles, effectivement.
Et donc, comment, selon vous, renforcer cette solidarité réelle et permettre aux paysans d'en profiter, de s'organiser?
Tout d'abord, en commençant par organiser des solidarités au niveau local, au niveau du village, au niveau de la colline. Ensuite, rentrer dans des niveaux de solidarité beaucoup plus élevés au sein de coopératives qui permettent à la fois de commercialiser des productions agricoles ou au sein des mutuelles de santé qui permettent aux populations d'accéder à des soins de santé plus facilement. Et ensuite, au sein de ces coopératives, au sein de ces mutuelles, promouvoir des modes de décision démocratiques, c'est extrêmement important, qui peuvent servir de modèle pour les communautés et dans l'espoir progressivement de construire des mouvements sociaux à des niveaux beaucoup plus élevés, des fédérations, des confédérations d'organisations paysannes, des confédérations de mutuelles de santé qui, elles, réclament de participer à la prise de décision politique.
Déogracias Nyankuru, je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions du GRIP, « Pour la dignité paysanne », avec comme sous-titre « Expérience et témoignages d'Afrique, réflexions, pistes méthodologiques ». Un grand merci à vous, Urakoze.
Merci beaucoup, Urakoze na, ouais.
C'est la fin de ce magazine. Encore merci à Déogracias Nyankuru, à Hervé Lisoire aussi de la Fondation du Roi Baudouin, à Daniel Feierstern du GRIP et aux équipes techniques de la Deutsche Welle qui ont permis ce duplex avec Bruxelles. Écrivez-nous à français@dw.com pour nous faire part de vos réflexions à vous sur la façon dont l'Afrique pourrait se développer autrement. Salut et à la semaine prochaine pour le second volet de notre entretien.
Lorsque tu récoltes certains sommets, tu es bien fier de ton travail. La terre, notre mère, ne trompe pas, mon cher paysan.